Mal.
Eh ben on est en direct, voilà, c'est reparti, il n'y avait pas de décompte. Bonsoir à vous, Thierry Cotillard, président du groupe Les Mousquetaires. Vous détenez une partie des enseignes Intermarché et Netto. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Avant d'aller sur le cœur du sujet, la bonne nouvelle, la baisse des prix, un mot sur ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de racheter tout le groupe Casino. 294 points de vente sont concernés. Ça veut dire quoi? Que Casino, c'est terminé, c'est fini?
Alors, ça existera sur des petits formats de magasins, mais c'est vrai que vous avez raison. L'essentiel des supermarchés et des hypermarchés, géants et casinos, a donc été vendu aux deux tiers pour Intermarché et Netto. Et il y a un tiers qui part aussi chez Auchan. La bascule est en cours. Donc, les premiers consommateurs voient des enseignes qui tombent et puis qui voient Intermarché arriver dans des villes. Ça va nous rapprocher des Français. Il y aura un Intermarché, non pas tous les 17 kilomètres, mais tous les 12 kilomètres. Et la super nouvelle pour les consommateurs, c'est des baisses de prix, puisqu'on a 18% d'écart entre les prix d'Intermarché et ceux qui étaient pratiqués par Casino.
Donc, des baisses de prix de l'ordre de 18% par rapport aux prix pratiqués dans
Casino.
Par
notre concurrent, il y a quelques semaines, ouais, exactement.
Évidemment, on se pose la question des postes. Est-ce qu'il y aura des suppressions de postes?
Alors, ça, c'était un sujet extrêmement important, notamment pour Bercy. Et ça a pesé dans la décision de nous attribuer l'ensemble de ces magasins, puisque l'objectif, nous, c'est un objectif de relance, de faire revenir des clients, de préserver l'emploi, d'en créer même, puisqu'il y avait des rayons comme la poissonnerie, la boucherie qui avaient été fermés. Donc, on espère réouvrir tous ces rayons. Et donc, on prend le pari de sauver un maximum d'emplois. Vous savez, sur 294 points de vente, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelques villes dans lesquelles la situation est vraiment catastrophique et qu'on ait du mal à faire revenir les clients. Mais je peux vous assurer, on a un groupement d'indépendants. Tous les indépendants souhaitent œuvrer, reprendre un magasin, embarquer les équipes. Et on aura réussi si dans 6 mois, les salariés de Casino sont contents d'être devenus mousquetaires.
Donc, a priori, pas de suppression de postes?
Non, c'est un plan de relance, un plan de croissance et on va tout faire pour sauver l'emploi.
Donc, on en vient à cette bonne nouvelle. Les prix des produits de grande consommation sont donc en baisse. C'est très léger, mais c'est quand même là. Moins 0,1% sur un an, moins 0,2% sur un mois. C'est la première fois depuis novembre 2021 que la tendance sur un an s'inverse. 2 ans qu'on n'avait pas vu. On peut parler de déflation, là? Ou c'est encore trop tôt?
C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Mais la bonne nouvelle, c'est fini l'inflation à deux chiffres. On est sur une inflation qui était contenue depuis le début de l'année, hein. On a parlé d'un à 2%. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on assiste à des baisses très significatives sur certains produits, notamment les marques de distributeurs. Mmh. Et on a les lessives, chez Intermarché, par exemple, qui fait moins 15%. On a des frites surgelées qui font moins 20%, du jambon à moins 7%. Et donc, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les consommateurs parce que le panier va baisser.
Une baisse des prix, on ne retrouvera pas pour autant les prix initiaux, parce qu'on rappelle quand même qu'en 2 ans, certains produits ont vu leur prix augmenter de quoi, 20%?
On est à 20% sur le cumul des 2 dernières années. Et il faut être clair, c'est-à-dire faut pas non plus donner l'espoir, ce serait mentir à nos consommateurs, qu'on va revenir à la vie d'avant et au point de départ. Donc non, il y a eu 20% d'augmentation. Notre rôle, c'est essayer de la contenir maintenant, de travailler sur la déflation. Mais depuis, les salaires ont augmenté, l'électricité n'a pas encore baissé. Et donc, on ne retrouvera pas le point de départ, mais on va tout faire pour continuer à essayer de baisser certains prix, évidemment.
Donc, j'aimerais qu'on voit concrètement quels produits sont concernés. On a fait une petite liste.
D'accord.
De produits, évidemment, qu'on consomme régulièrement. Moins 0,27 euros, moins 27 centimes plutôt sur le papier toilette. Moins 50 centimes sur le riz. Moins 10 centimes, sur le poulet. Voilà, c'est la confirmation.
Ça,
que
c'est la confirmation réelle de baisse.
Et il y a les produits d'hygiène.
Il y a des produits d'hygiène. Alors, c'est aussi un choix des distributeurs, parce qu'il y a eu la loi de Crozat qui est passée par là. On nous a interdit de faire des promotions fortes. Donc, comme les volumes sont vraiment en récession, on est à 7-8% de baisse de volume. Qu'est-ce qu'on a fait en tant que distributeur? On a rogné sur les marges qu'on pouvait avoir sur ces produits et on a baissé drastiquement les prix pour essayer de juguler les baisses de volume liées aux pertes de produits qu'on vendait en promotion par le passé.
Donc, vous avez finalement réussi à rogner sur vos marges?
Vous savez, c'est un métier de péréquation. La marge globale du magasin, elle est toujours entre 18 et 20% selon les zones pour payer le niveau de loyer qui peut être différent. Le résultat d'un supermarché reste autour de 2%. Et effectivement, le métier de distributeur, c'est de faire des péréquations. Là, on avait des problèmes de volume, puisque je vous le dis, on pouvait plus faire de promos fortes sur l'hygiène. Eh bien, on baisse le prix. Et inévitablement, il y a eu d'autres hausses. Hein, et on a eu des hausses, on pourra en parler, qui sont liées aussi à l'inflation de certaines matières premières.
Donc, vous avez été contraint, entre guillemets, quand même, à baisser les prix puisque les gens ne venaient plus acheter ces produits d'hygiène parce qu'il n'y avait plus de promo dessus.
Oui, c'est exactement ça. Et puis, vous savez, en France, on a la particularité d'avoir un acteur qui est souvent cité comme une des enseignes préférées qui s'appelle Action. Action, il achète des stocks, des volumes de déstockage à l'étranger et il arrive avec des prix extrêmement agressifs. Il sort un peu de cette loi de Crozat. Il peut vraiment taper les prix. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de pas laisser nos clients partir à la concurrence et de proposer des alternatives. Donc, sur nos marques propres, nous, on fait des produits d'hygiène dans une usine qu'on a en Bretagne. Eh bien, on a décidé de rogner sur notre marge pour effectivement juguler les volumes et repartir vers un peu de croissance.
Donc, c'est quand même possible parce qu'on a l'impression que pendant là des mois, on nous disait impossible de baisser les prix, impossible de rogner sur nos marges.
Sur le sujet des marges, c'est vraiment propre à chaque enseigne. Nous, on a fait le choix parce que on sait par exemple que je vous parle de l'hygiène, mais il y a d'autres produits sur lesquels les Français ont des attentes et ont du mal à pouvoir consommer, c'est la viande, le poisson. On a fait le choix il y a 50 ans d'avoir nos bateaux, nos abattoirs pour pouvoir justement maîtriser la totalité de la chaîne alimentaire. Et donc, on propose par exemple du steak haché à moins de 10 euros et on fait partie des enseignes qui font vraiment du volume sur ces produits-là, alors que des enseignes qui continuent à pratiquer des prix élevés perdent des clients et puis perdent en volume. Donc, il est du ressort de chaque enseigne de faire des choix, de rogner ses marges. Et nous, on a fait ce pari-là, un peu moins de marge en taux, et on a recruté 700 000 clients. Donc, on a l'impression que c'est la bonne tactique commerciale.
Donc, concrètement, est-ce que vous pouvez nous faire la liste de tous les produits dont le prix a baissé dans les rayons?
Lessive, moins 15%. Frites surgelées, je l'ai dit, moins 20%. Les pâtes, c'est une réalité, que ce soit de la marque de distributeur ou de la marque nationale, parce que le prix du blé a vraiment baissé. Et vous le retrouvez chez Carrefour, chez Inter, chez tout le monde, c'est moins 8. Et puis, il y a des hausses, faut aussi en parler, parce que je vous ai dit, la somme, elle est à jeu nul. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur une déflation totale du marché. Parce que, il y a eu une pénurie d'oranges, il y a eu un problème climatique et donc pas de récolte en Floride, au Brésil. Donc, 2 ans vraiment de sous-récolte fait qu'on a un jus d'orange qui a pris 20%. On a un cacao qui commence à baisser au niveau de la matière première, mais qui a flambé, qui a fait x7. Donc aujourd'hui, on a un cacao, quand vous achetez du chocolat, qui reste cher. Et puis le café, c'est exactement la même chose. Et au sein de l'huile, parce que l'huile, c'est très consommé par les Français, quand on parle du tournesol, c'est moins 5%. Et quand c'est l'huile d'olive, ça fait encore plus 5 parce qu'il y a une pénurie de matières premières. Donc, vous voyez, c'est du plus, du moins. La bonne nouvelle, c'est qu'en gros, ça tourne autour de zéro et on espère que ça baisse. Et la question qui serait, est-ce que dans les mois qui viennent, ça va, ou les semaines qui viennent, ça va vraiment baisser? Non. Je vais vous apporter une réponse qui est très technique. Sur la marque de distributeur, c'est possible parce qu'on a la possibilité de négocier tout au long de l'année. Donc, s'il y avait des baisses de matières premières, on les répercuterait. En revanche, vous le savez, sur les marques nationales, tout a été négocié au 31 janvier.
Et donc, il faudra attendre le mois de janvier.
Attendre l'année prochaine.
Pour espérer de vraies baisses. Le maire vous impose un nouveau calendrier.
Exactement. Ça fait partie peut-être des propositions de la nouvelle loi Egalim qui sera votée en septembre.
La baisse durable, faut pas se leurrer, elle n'arrivera pas. Parce que vous parliez de, et vous le savez, vous parliez de quelques produits. Vous n'avez pas cité le sucre, mais c'est un très bon exemple, le sucre. Qui a pris combien sur les
sucre,
ça a flambé.
Il a pris 40%.
Il a pris 40%. Il a flambé et on arrive aux limites des politiques. On ne plante plus de betteraves à sucre en Europe parce que depuis 2018, on n'a plus droit de mettre des néonicotinoïdes sur les semences en Europe. Baisse de surface de production de betteraves à sucre en Europe, moins 17%. Tout, on doit l'importer. Ça coûte beaucoup plus cher et manque de bol, même à l'étranger, les récoltes ne sont pas sûres parce qu'il y a des problèmes climatiques. Donc, de toute façon, moins de surface cultivée, des récoltes contestées, en tout cas en péril, les prix vont rester très élevés. Et c'est pareil pour le cacao.
Alors là, justement, le cacao. Oui, il faut en gros est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse ou non?
Il y a eu un problème qu'on connaît, hein. Il y a eu une récolte désastreuse en 2022, une sécheresse en 2023, si bien que les plus gros producteurs qui sont le Ghana et je sais plus lequel est le deuxième, enfin les deux plus gros producteurs qui sont 60% de la production mondiale, leur rendement ont baissé de plus de 30%. Donc il y a une tension sur la demande. Le problème, c'est que ça risque le cacao, on peut le cultiver uniquement en zone tropicale. Ça demande des conditions climatiques très particulières, de moins en moins d'humidité, plus de sécheresse. C'est aussi des grands champs en monoculture intensive qui sont pas très résilients. Donc on peut craindre que ça va être assez durable pour le cacao, parce qu'il y a pas d'alternative.
Frédéric et Monsieur Cotillard, l'an dernier, on n'a pas pu manger de cerises. les fruits cet été, comment
c'est
ça
vrai,
va se passer?
C'est vrai, c'est vrai.
Les prix des cerises étaient inabordables l'année dernière. Est-ce que cette année, on va pouvoir manger quelques fruits d'été quand même?
Eh ben, tout dépend des conditions climatiques, en fait. C'est la prochaine inflation qui sera verte, c'est-à-dire on va dépendre effectivement des récoltes qui se font pas, et c'est un marché d'offre de demande. Donc si la production n'est pas détruite et qu'on a la totalité de la production sur le marché, les prix seront raisonnables, sinon ça va flamber.
Les fraises, pareil, c'est très cher.
Les fraises sont chères. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème climatique ou autre qui ferait qu'il y aurait une dérégulation du prix.
Ah non, mais les fraises, elles resteront chères parce que ça, c'est le coût du travail en France. Hein. Je veux dire,
la garriguette est très bonne.
Le prix de la fraise, c'est 60% de main-d'œuvre. Ouais. La main-d'œuvre en France, elle est beaucoup plus élevée qu'en Espagne et qu'ailleurs. Oui, enfin, donc ça, elle baissera pas la fraise.
Tu vas me permettre de ne pas comparer la fraise espagnole qui est absolument dégueulasse avec la fraise française, la garriguette.
Alors, je crois que pour faire des économies, on pourra arrêter de sucrer les fraises. Ça serait déjà. Une question un peu perverse. Dans cette période d'hyperinflation qu'on a traversée, est-ce que vous avez vu une recrudescence des vols à l'étalage?
Alors, j'ai souvent eu la question, oui. En fait, on avait des vols qui étaient sur le non alimentaire, et puis on avait des trafics organisés, de lames de rasoir qu'on nous piquait. On a vu, malheureusement, des clients qui étaient nos clients habituels, qui, par inadvertance, oubliaient de passer la viande ou le sachet de poisson.
On a vu des antivols sur la viande.
Bien sûr. Donc, on a connu ça. Donc, c'était bien symptomatique d'une vraie tension sur du pouvoir d'achat.
Et ce qu'on appelle moyennes. L'état de nécessité.
Exactement.
Avec, d'ailleurs, vous avez observé des changements de comportement.
Oui.
Lesquels?
Beaucoup plus de fréquentation. On vient plus souvent faire ses courses pour maîtriser sa dépense, pour saisir aussi les opportunités des promotions qui peuvent être différentes. On fréquente plus d'enseignes parce qu'en fait, on est à l'affût des premiers prix dans une enseigne, de la qualité des produits frais dans l'autre et de la promotion dans le troisième magasin. Et puis, il y a une vraie révolution. On a eu une évolution de la marque de distributeur de manière très conséquente. Et aujourd'hui, en fait, les consommateurs ont goûté la marque de distributeur. Et en fait, après avoir comparé certainement le rapport qualité-prix, ils ne s'en détournent pas. Et donc, on a des progressions importantes en volume sur les marques de distributeurs. Au détriment des marques nationales. Et donc ça, c'est pas un feu de paille, c'est une tendance de consommation.
Et vous avez plus de marge?
Alors, on a
sur le distributeur, ça vous intéresse quand même?
Oui, alors nous, en l'occurrence, on a la péréquation, on la fabrique, donc effectivement. Oui. Par contre, ce qui est à mon avis à noter, c'est que les marques nationales aujourd'hui sont obligées de revenir à faire des promotions fortes pour compenser évidemment ces baisses de volume parce que le consommateur s'est un peu détourné de la marque nationale pour aller vers la marque de distributeur.
Charles Consigny, vous aviez une question.
Oui, moi je me demande quand même si ça n'est pas mauvais signe qu'en France on soit à ce point obsédé par le fait de mettre le moins d'argent possible dans son alimentation.
Dans le logement.
Je sais bien qu'il y a des gens, beaucoup de gens, des millions de Français qui ne peuvent pas faire autrement. Mais je suis frappé de voir que, par exemple, dans la publicité qu'on entend à la radio ou qu'on voit à la télé pour l'alimentation, c'est au centime près qu'on nous promet une réduction, une promotion, un prix pas cher, etc. Dans le même temps, on lit que ce système impose de faire pression très fortement sur ceux qui produisent l'alimentation, sur les producteurs de lait, sur les éleveurs, sur les producteurs à l'étranger. Du coup, il y a des alternatives qui se créent. On a parlé beaucoup à un moment du commerce équitable, etc. On sait que quand même, sauf, j'imagine, la marque distributeur des mousquetaires, mais sinon, on sait que quand même, souvent... prix bas veut souvent dire quand même qualité basse, pas surtout, je suis certain que c'est quelque chose qui se dément, mais enfin, il y a quand même ça. Enfin, ce système de la grande distribution, il utilise énormément de plastique, il est quand même un peu anachronique sur le plan de l'écologie. Donc moi, je me dis, quand dans le même temps, les autres postes de dépenses des Français... Personne ne fait d'effort pour baisser son prix. Je veux dire, j'ai pas vu Apple, Netflix, même Engie, Total Energy, que sais-je, les fournisseurs d'énergie qui vendent très cher en réalité l'énergie aux Français. Tout cela, je les ai pas vus faire.
C'est des taxes.
Faire des efforts d'économie. L'État n'a pas fait d'efforts d'économie.
Oui, c'est des taxes, l'énergie, tout ça.
L'État ne fait pas d'efforts. Et donc le poste sur lequel on fait des efforts. C'est le poste sur lequel, au contraire, il faudrait que les gens mettent plus de part de leurs revenus.
Pour mieux manger.
Pour mieux manger, pour être en meilleure santé.
Ça a beaucoup baissé ces dernières années, de toute façon. Par rapport à il y a 30 ans, on dépense beaucoup moins.
Et dernier point, est-ce que c'est pas inquiétant? Je reviens au début de ma question et je finis par là. Qu'en France, on soit obsédé à ce point-là par ça? Parce que, par exemple, quand on va dans d'autres pays comme les États-Unis, les courses sont beaucoup plus chères. Les produits
mais
sont
le
beaucoup plus chers.
Mais le logement n'est pas...
Mais parce que les gens...
C'est systémique, hein.
La réponse, peut-être.
Parce que les gens sont...
Du distributeur.
Donc, comment vous vous projetez dans tout ça?
C'est une réalité, le poids de la dépense alimentaire, après-guerre, c'était 30%. Mmh. Voilà. On est tombé bien bas, on était à 13%. C'est en train de remonter. C'est-à-dire que l'inflation a fait qu'on est plutôt à 14,5%, 15% des dépenses des ménages qui vont dans l'alimentation. Et vous avez raison, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire que malheureusement, c'est la variable d'ajustement de la dépense des ménages français. C'est-à-dire, je paye mon loyer, je paye mon essence pour aller au boulot, et puis avec ce qui me reste, en tout cas, je vais faire des arbitrages sur mon alimentation. Il faut avoir en tête qu'un Français sur deux est à 10 euros près en fin de mois pour consommer son alimentation. Donc effectivement, ça l'oblige à faire des arbitrages. Et dans tout ça, comment on se positionne? Eh ben, quand tu es une enseigne populaire comme Intermarché Netto, tu te dis, on peut pas faire que des premiers prix. C'est-à-dire qu'on a aussi fait le choix d'avoir des usines, des bateaux. Et donc, on essaye, et c'est pas simple, l'équation, on n'a pas encore la réponse puisque ça fait encore l'objet d'un débat. C'est où est-ce que tu mets le curseur pour défendre ce pouvoir d'achat, proposer des prix bas, sans détruire de la valeur pour que nos agriculteurs puissent en vivre et que chaque maillon de la chaîne puisse exister demain. C'est l'équation qui est posée. Il n'y a pas encore la solution définitive, mais il y a des propositions à faire. Oui. On en a quelques-unes. Par exemple, cette transparence qu'il faut absolument pour savoir combien gagne chacun et puis avoir une marche en avant.
Et on va en parler évidemment avec ce projet d'Egalim qui doit être présenté avant l'été. Je crois que vous avez écrit au président Emmanuel Macron. Il vous a répondu d'ailleurs ?
On a la rumeur qui va nous recevoir, c'est déjà pas mal.
Ah, c'est déjà pas mal. On va y revenir dans un instant, mais juste avant, les techniques pour faire payer plus qu'on remarque dans les rayons. On a beaucoup parlé de la shrinkflation, c'est-à-dire on paye le même prix, mais on a juste moins de produits dans le paquet. En gros, il y a un autre phénomène, c'est la stretchflation, c'est le fait d'avoir augmenté cette fois-ci le volume de produits, mais alors d'avoir augmenté d'autant plus le prix derrière, et tout ça est assez disproportionné. Sami Sfaxi, racontez-nous la stretchflation.
Bonsoir Julie, vous allez détester les mots que je vais utiliser, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Vous connaissez, vous le disiez, la shrinkflation. Donc c'est cette pratique en fait qui vise à diminuer les quantités d'un produit avec un prix qui reste inchangé, voire parfois qui est plus élevé. Eh bien sachez qu'à partir du 1er juillet, les enseignes seront obligées d'apposer une affichette pour justement signaler ces pratiques. Sauf que selon le spécialiste conso que vous connaissez bien, Olivier Dauvert, eh bien les distributeurs ont trouvé une parade. Et oui, voici donc le temps désormais de la stretchflation. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez comprendre par vous-même. On a pris cet exemple. C'est Olivier Dauvert sur son blog qui affiche justement cette étude de cas. Une ancienne gamme de buns, donc ce sont ces petits sandwichs, cette ancienne gamme qui est vendue 2,93€. La nouvelle gamme est vendue 3,99€ pour une portion supérieure de 60 grammes. Donc, une portion supérieure de 60 grammes, donc 15% de matière en plus, mais un prix qui augmente pas de 15%, mais de 35%. Ça s'appelle la stretchflation. C'est une façon, en fait, de contourner la loi, selon encore Olivier Dauvert, le fait d'avoir augmenté, donc, cette fois-ci, la quantité d'un produit, d'avoir forcément augmenté le prix, mais d'avoir augmenté le prix de façon exagérée. Il va falloir donc surveiller ses distributeurs.
Merci beaucoup, Samy. C'est quelque chose qu'on peut voir dans vos rayons?
Alors, la
stretchflation.
Dites la vérité.
La disposition d'avoir cette transparence, je crois que c'est une bonne disposition de la part de la ministre Olivia Grégoire, parce qu'effectivement, il y a tromperie pour le consommateur. Donc, mm-hmm. il faut lutter contre ça. Là où Olivier Dauvert fait quand même une erreur, c'est que c'est pas le distributeur qui fait le choix d'augmenter le packaging, ça vient de l'industriel. Donc, on nous fait porter cette responsabilité, mais c'est à l'industriel qui a décidé d'augmenter le volume du packaging. Oui. Augmenter le prix.
Mais vous pourriez l'indiquer sur les étiquettes en disant attention,
oui, mais il y a pas d'obligation.
Le prix au kilo, certains ont dénoncé.
J'entends, mais l'industriel aujourd'hui n'a pas l'obligation de nous donner l'information. C'est comme si on vous disait, vous faites les JO, mais je vous donne ni le lieu, ni la date.
Donc vous dites que vous n'êtes pas au courant.
Il faut les repérer vous-même.
Il faut les repérer.
Ouais.
Donc moi, et je dis, il est encore temps de modifier la loi pour que on le fasse, mais avec l'obligation pour celui qui a modifié de nous donner l'information. Comme ça, on est sûr de ne pas passer à travers.
Vous-même, vous avez un peu grandi pendant la crise.
C'est-à-dire non.
La shrinkflation, d'ailleurs, à partir du 1er juillet, oui. Ça y est, il va falloir indiquer précisément quels produits sont concernés ou non par la shrinkflation.
On va parler de ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire que l'industriel le fait aussi pour restaurer des marges, hein, et certains industriels en ont besoin, probablement, pour couvrir leurs coûts. Et là, il y a quelques industriels qui ont pris, je dirais, à défaut la loi. C'est-à-dire que la loi prévoit que si la formule, la recette était légèrement modifiée, on échappe à cette obligation d'affichage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà constaté, donc j'espère que ça va pas être la généralité, des industriels qui vous enlèvent un gramme de sel. Et comme la recette n'a plus la même contenance, on n'a pas l'obligation de l'afficher et on passe à travers
c'est
la chimisation.
C'est pour ça qu'on fait Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3,
oui,
c'est pour à chaque
et
fois.
Et on empile et voilà.
Est-ce qu'il y a des produits, parce que moi, dans mon supermarché, il y a encore quelques mois, on avait des grandes affiches, tel produit n'est pas disponible, tel produit, etc. Est-ce que vous refusez encore certains produits parce que estimez qu'ils sont trop chers?
On l'a dénoncé, ouais. Alors, avec humour, on disait, il est fada, le petit Marseillais, Knorr, j'adorais, parce que voilà, c'était en connaissance.
Et vous le faites encore ça aujourd'hui ou ça s'est réglé, les prix sont...
En fait, on va arrêter parce que c'était l'objet que la loi portait, c'est-à-dire justement nous obliger à l'afficher de manière systématique. Et là où je vous dis où ça va être compliqué au 1er juillet, c'est quand on prend la liste des produits qui semblent être en shrinkflation, l'industriel nous dit t'es pas obligé et d'ailleurs tu ne vas pas l'afficher puisque ma recette n'est pas la même.
Une question sur l'engouement pour le discount. Il y a une étude qui vient de sortir de Havas Commerce qui révèle que 85% des personnes qui ont répondu à ce sondage envisagent de consommer davantage de produits discount à l'avenir, donc Lidl, Primark, Action. Quelle est votre réaction à ça?
Ouais, j'ai envie de dire, nous, on a envie de composer le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on comprend, avec cette pression sur le pouvoir d'achat, qu'il y a une attente, une appétence sur le prix.
Et même les plus aisés, visiblement,
oui, bien sûr,
se disent pourquoi pas.
Vous savez, il y a 5-6 ans, quand le consommateur était face à un produit dans le rayon, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le produit, il sortait son appli Yuka, il voyait ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, c'est un peu délaissé et on regarde l'étiquette prix, à combien est le prix au kilo. Bah, il faut concilier les deux, c'est-à-dire ne faire que des prix bas qui tireraient vers le bas toute la filière, la qualité. C'est pas la mission qu'on s'est fixée chez les mousquetaires. On espère concilier les deux, c'est-à-dire avoir du mieux manger, le respect de la rémunération des agriculteurs et le meilleur prix. Donc on est en compète perpétuelle. Vous parlez d'Action, mais quand vous avez un compétiteur comme Leclerc qui fait du prix bas, vous pouvez pas être trop loin derrière lui, sinon les clients changent de crèmerie. Donc on essaye de concilier mieux manger et la compétitivité.
Un tout dernier mot là-dessus.
À un moment, il faut arrêter aussi de pointer le distributeur, parce que là c'est pas son sujet. Le distributeur, il répond à une demande. Les gens veulent du pas cher. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comme on sait plus faire du pas cher en France, il l'importe. Et là, aujourd'hui, le gouvernement ne s'est toujours pas attaqué à ce qui fait que les prix restent très élevés, les coûts de production français. Il faut s'attaquer enfin à ça, aux coûts de production, aux coûts du travail, aux coûts de... là, pour l'instant, rien n'a été fait. Donc, on peut faire un énième Egalim. On arrivera au Egalim 27 que le problème ne sera pas réglé et qu'il n'y aura pas de mieux réellement dans le pouvoir d'achat des agriculteurs et des autres.
Et vous nous dites que vous allez donc être reçu par Emmanuel Macron a priori pour faire des propositions justement pour protéger les revenus des agriculteurs.
On devrait être reçu, j'espère rapidement, parce que le projet de loi c'est quand même pour la rentrée, c'est pour septembre, donc il est urgent d'être entendu. On a quelques propositions.
Pas les prix planchers en tout cas, les prix planchers, pardon.
Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, quand vous en parlez aux responsables syndicaux agricoles, ils vous disent que ça va poser un problème de compétitivité à l'export. Donc c'est très bien pour un marché intérieur, mais on vit quand même dans un marché libéralisé, européen, mondial. Donc le problème du prix plancher, à mon avis, c'est pas la solution pour le monde agricole.
Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous.
Thierry Cottière d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV.